Nous sommes avec l'historien philosophe Achille Bembe de l'université Wits en Afrique du Sud. Bonjour.
Bonjour.
Hasard du calendrier de l'actualité, on apprend que François Hollande renonce à se présenter à la primaire et finalement à se représenter à sa succession en 2017 en France. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est une grande décision, quelles que soient les raisons qui l'y ont poussé. Qu'il y ait été poussé par le fait de la probable impossibilité de sa réélection ou qu'il y ait été poussé par son adhésion propre à un certain nombre de principes. Je crois que c'est un geste courageux et digne qu'on aimerait, on souhaiterait voir se reproduire chez nous, en particulier en Afrique.
Ça interroge justement notamment les débats en cours en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs sur le continent. Ça participe à cette réflexion?
Ah, je suis sûr que ça sera un élément de poids dans les réflexions qui ont cours justement au sujet de la perpétuation au pouvoir, en particulier dans la région de l'Afrique centrale, de gens qui n'ont plus du tout rien à donner à leur peuple. Et donc l'acte de M. Hollande représente ce point de vue quelque chose, à mon avis, de significatif, dans la mesure où ici on a l'exemple de quelqu'un qui est capable de détachement, de laisser aller les choses et de faire place à d'autres possibilités quant à l'avenir de son pays. Manque énormément à la culture politique en Afrique postcoloniale. Pas seulement d'ailleurs en Afrique postcoloniale, parce que, y compris à l'époque précoloniale, la question de la succession au pouvoir était toujours terriblement compliquée. Les sociétés politiques africaines, dans le temps long, ont toujours éprouvé d'énormes difficultés à régler au mieux les questions de transition politique, de succession au pouvoir. On n'en est pas au début.
On entend souvent en Afrique que le concept de démocratie a été imposé, notamment lors de la décolonisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, on a pris beaucoup de choses de l'extérieur. L'Afrique dispose d'une extraordinaire capacité à assimiler des choses dont elle n'est pas l'auteur. Il en est ainsi à la fois des formes techniques, des formes culturelles, des langages culturels, mais aussi des formes politiques. La démocratie de type libéral étant ici un exemple tout à fait approprié. Mais il n'est pas vrai que si effectivement la démocratie a à voir avec le principe de égalité de tous, le principe de liberté, si elle est une manière d'organiser en commun la redistribution du bien-être parmi tous et toutes, il ne me semble pas que ces principes soient anti-africains, encore que il faille définir ce qui est africain, ce qui ne l'est pas. Et donc, l'argument selon lequel la démocratie libérale ne répondrait pas du tout aux données d'une supposée culture africaine, c'est un argument un peu facile.
Et pourtant, on a aujourd'hui tous ces débats sur les alternances qui se perpétuent. On a vu le cas au Burundi, l'été prochain au Rwanda, on voit le cas en République démocratique du Congo. C'est un mal africain, comme certains le diraient, ou c'est trop facile justement de pointer du doigt le continent, alors que on a vu pendant des siècles et des siècles, notamment des monarchies par exemple, qui n'étaient pas des pouvoirs démocratiques en Europe.
Ça n'a rien d'africain en tant que tel, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au fond, la limitation des mandats, c'est vrai, d'un point de vue purement objectif, c'est pas partout qu'elle est un pilier de l'exercice démocratique du pouvoir. Ce qui est important, c'est l'institutionnalisation d'un rapport de force équilibré entre l'État et la société. En Allemagne, Mme Merkel va se représenter, je ne sais pas pour la deuxième, troisième, quatrième fois, mais il ne vient à l'esprit de personne de imaginer que l'Allemagne serait en train de rentrer dans une période dictatoriale. C'est précisément parce que en Allemagne, le rapport de force entre l'État et la société est tel que cette possibilité, elle est très éloignée. Alors que dans les pays africains, ce rapport de force est largement à l'avantage des bureaucraties existantes. Et donc, ce qu'il nous faut obtenir, c'est un autre rapport de force entre la société dite civile et les pouvoirs en place. Ceci exige une énorme capacité d'organisation, ceci exige des ressources matérielles, ceci exige un renouvellement des langages culturels, une aptitude à mobiliser des réseaux de solidarité sur le plan transnational et un renouvellement profond de l'imagination politique en tant que telle. Et donc, le projet démocratique en Afrique est un projet de très long terme. Et il prendra forme au cours de luttes sociales de très grande envergure, dont on peut d'ores et déjà voir ici quelques manifestations. Mais on est loin du but.
Et aujourd'hui, comment vous définiriez l'Afrique ? On est au 21e siècle, évidemment, ère connectée, à la fois digitalement parlant, à la fois au niveau du transport, mais cette Afrique-là, comment vous la voyez à travers le monde ?
Elle est une espèce de géant en sommeil. C'est un continent colossal du point de vue de sa superficie, du point de vue de son avenir démographique. Ce sera dans une vingtaine, une trentaine d'années, une des régions les plus peuplées du monde. Alors que, exception faite de l'Asie, le reste du monde entrera dans une période de vieillissement. C'est également un énorme continent colossal, qui est peut-être l'un des tout derniers à offrir encore à l'humanité des possibilités de se renouveler, soit par l'immigration, soit par d'autres mécanismes. Mais il faut réveiller ce génie. Et on ne le réveillera point si l'Afrique ne devient pas son centre propre. C'est sa puissance propre et sa force propre. Si elle ne s'ouvre pas à elle-même, d'un point de vue matériel, la mise en place de grandes infrastructures, de circulation pour que les gens puissent bouger. L'avenir de l'Afrique dépend de la capacité de ces gens à bouger à l'intérieur du continent.
Un désenclavement à l'intérieur.
Un énorme désenclavement. La transformation de l'Afrique en un vaste espace de circulation qui implique l'accueil de nouvelles diasporas, l'ouverture grande des portes du continent à tous ceux qui veulent lier leur sort à l'Afrique. Et donc, c'est ce grand projet qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, c'est le grand projet qui a animé la réflexion critique afro-diasporique à partir du 19e siècle. C'est cela qu'il faut remettre, disons, en forme et surtout trouver les forces sociales capables de le porter.
Vous avez une réflexion intéressante, notamment sur le concept de frontières, qui, on le sait évidemment, avec ces frontières héritées du monde colonial, sont assez superficielles finalement. Vous, vous êtes plutôt parmi ceux qui appellent peut-être à retrouver un esprit un peu caravanier, justement, où on avait les possibilités de mieux se déplacer et où cette frontière administrative n'était pas vraiment réelle, en fait.
Mais c'était ça, lorsqu'on regarde l'histoire, la grande histoire, l'histoire profonde du continent, qui, par ailleurs, ne se limite pas à l'histoire coloniale. La colonisation est une parenthèse importante dans l'histoire longue du continent. Lorsqu'on examine attentivement cette histoire longue du continent, on se rend compte du fait qu'au fond, nous sommes parvenus à créer des civilisations humaines sophistiquées en Afrique en partant du principe de la circulation et du mouvement, c'est-à-dire d'un certain entendement de la frontière comme non pas espace de ségrégation, mais de la frontière comme espace privilégié, symbolique, d'enchevêtrement et de mise en commun. Alors, le principe frontalier colonial est tout à fait différent. C'est le principe de l'État-nation, dont on sait que la souveraineté repose sur le contrôle, le monopole du contrôle de la violence, de l'espace et des impôts, et donc par conséquent des populations. Or, justement, les formes de souveraineté précoloniale reposaient sur la mobilité, sur l'itinérance, sur l'idée même de la caravane. Et donc, il faut que l'Afrique sorte de cette espèce de glaciation coloniale qui a été ratifiée en 1963 par l'Organisation de l'Unité africaine lorsque celle-ci s'est prononcée sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il faut remettre en question le principe de l'intangibilité, aussi bien pour les frontières que pour tout ce qui empêche la mobilité des Africains. Sinon, l'Afrique va être pénalisée doublement. Personne ne veut des Africains nulle part ailleurs dans le monde. On ne peut pas en plus se permettre d'imposer aux milliards et plus d'Africains, une assignation à résidence nationale dont le prix est de plus en plus élevé.
Et le digital dans tout ça, c'est une chance ou un enfermement ?
Alors, le digital, justement, c'est une énorme chance. Disons qu'au moment où nous parlons, à mon avis, il y a une révolution technologique en cours en Afrique, dans la mesure où l'afro-computation, le numérique, est en train de se transformer, justement, en un énorme levier qui fait exploser la conscience que les Africains ont d'eux-mêmes, qu'ils ont du temps et qu'ils ont de l'espace. Il restera évidemment à traduire tout cela en une série d'actions dynamiques, concrètes, pour faire imploser les frontières existantes. Mais le numérique est définitivement un outil d'avenir qui répond d'ailleurs, d'un point de vue, je dirais, épistémologique, à une longue tradition d'assemblage, de réassemblage, de mise en commun, de mouvements typiques des cultures africaines historiques.
On parle évidemment du XXIe siècle, on parle du mouvement, on parle de l'Afrique, et il y a évidemment ce phénomène des migrations, et notamment toute cette jeunesse africaine, ces dizaines de milliers d'Africains qui vont tenter leur chance vers l'Europe. C'est un constat d'échec pour les Africains, pour le monde en général. Comment vous voyez ce phénomène ?
Ils ont tort de risquer ainsi leur vie. Et d'ailleurs, une fois, pour ceux d'entre eux qui survivent à traverser la Méditerranée ou de ce fait du désert du Sahara, parce que il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas au bord de la Méditerranée. une fois qu'ils y arrivent, disons de l'autre côté, ils sont pas. Personne ne veut d'eux. Ils mènent des vies absolument horribles.
Eux disent, parce que j'en ai rencontré beaucoup en Italie, que cette vie-là est meilleure que sans espoir en Afrique. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Non, mais ils racontent des histoires. Ils se racontent des histoires à eux-mêmes. Toutes les études qui ont été faites récemment sur la vie des migrants africains en Europe montrent que il y en a très peu au fond qui parviennent au bout du compte. C'est une vie de déshonneur, d'humiliation au quotidien. C'est une vie clandestine. Et donc, la jeunesse africaine n'a strictement rien à gagner à entreprendre des initiatives aussi périlleuses. Ce qu'il faut faire, c'est de reconstituer en Afrique elle-même de nouvelles dynamiques sociales qui permettent de transformer le pouvoir et de réorganiser nos sociétés sur la base, disons, de nos avantages comparatifs. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir largement cet énorme continent où il y a encore de la place, non seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres qui aimeraient lier leur sort au nôtre. Et donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que des milliers de jeunes gens iraient se suicider en Méditerranée sur la base d'une vision de l'Europe qui est complètement surréaliste et qui ne correspond absolument pas à ce que est devenue l'Europe aujourd'hui.
Et justement, cette Europe, notamment les anciennes puissances coloniales comme la France, certains parlent de devoir de mémoire, d'autres parlent d'obsession mémorielle pour les plus critiques, mais est-ce que vous estimez que les anciennes puissances coloniales, notamment la France, en ont fait assez justement dans ce travail d'introspection sur ce qu'a été la période coloniale ?
Mais non, ils ne veulent rien entendre de cette période. Les candidats à l'élection présidentielle, ils vont tous... leur manière, ils cherchent à répondre au fond à une pulsion séparatiste, ségrégationniste, qui, pour certains, est la réponse à cette espèce de mondialisation sauvage à laquelle on assiste depuis au moins le dernier quart du XXe siècle. Et donc, le monde qui vient, malheureusement, sera un monde très brutal, où personne, disons personne, les anciens États colonisateurs ne veulent rien entendre au sujet de leur passé, outre-mer. Et donc, cela m'étonnerait que, dans les années qui viennent, quoi que ce soit de sérieux soit fait de ce point de vue.
Mais c'est quoi quelque chose de sérieux, selon vous, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, pour, justement, adoucir ces relations avec le passé et avec les anciennes colonies ?
Mais ce qu'il faut faire, c'est il faut que l'Afrique se mette debout, parce que à partir du moment où l'Afrique se mettra debout, les Africains seront respectés. Les Africains, mais aussi les gens d'origine africaine, qui se trouvent être des nationaux français, hollandais, anglais ou américains. Mais tant que l'Afrique n'est pas debout, ces questions tout à fait symboliques, tout à fait importantes, ne seront pas réglés.
Vous parlez des Américains, la transition est toute trouvée. Il se trouve qu'on va clore une page de l'histoire américaine, puisque le premier président noir, Barack Obama, va quitter ses fonctions en janvier 2017. Il est remplacé par un phénomène électoral qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'appelle Donald Trump. Certains estiment que c'est un réflexe identitaire blanc qui a notamment poussé au pouvoir Donald Trump. Qu'en pensez-vous?
Je crois que le phénomène est complexe. Il n'est pas qu'américain. Il y a une vague mondiale qui n'a d'ailleurs pas encore atteint sa crête. Beaucoup reste à venir et ce ne sera pas gai. C'est une vague qui est réactionnaire dans le sens où, justement, elle pense que le processus de mondialisation, il est allé trop loin. Et que la mondialisation aura laissé beaucoup de monde sur le chemin et beaucoup de gens qui ne sont pas protégés. Il y a une énorme demande de protection qui dépasse la protection de type purement économique, qui est une protection totalisante, le besoin d'une autorité forte, le désir de vengeance, le désir d'ennemi, la volonté de libérer une violence presque sans réserve contre des tiers inconnus. Tout cela fait partie, malheureusement, de l'esprit de notre temps. À un point tel que même les pauvres sont prêts à prendre des positions qui, de manière objective, vont contre leurs intérêts. C'est le cas aux États-Unis, me semble-t-il, où effectivement les questions de race, les questions d'inimitié, les questions de religion, d'identité, tendent à prendre le pas sur les questions purement, objectivement économiques. Mais ce n'est pas uniquement le cas aux États-Unis, c'est la même chose. On voit ces mouvements émerger en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, y compris dans les pays scandinaves, ou dans ce cas, en Afrique du Sud. Et donc, c'est un moment assez planétaire, malheureusement, qui impose qu'on réfléchisse à nouveau frais sur ce que pourrait être, disons, un gouvernement progressiste dans les conditions de néolibéralisme dont on s'aperçoit effectivement qu'il est antidémocratique, qu'il pousse les démocraties à un tournant autoritaire. Et la nouveauté, c'est effectivement ce tournant illibéral des démocraties libérales.
Et ce phénomène, Donald Trump, l'homme en tant que tel, le candidat, il vous inspire quoi?
Il est quelqu'un de très dangereux. Et les 4 ou 8 années qui viennent seront des années de brutalité. C'est quelqu'un de très dangereux. Il répond parfaitement à l'esprit du temps dont on vient de dégager quelques tendances générales. Le désir d'inimitié, le désir d'apartheid, le refus de toute idée d'en commun qui soit pas fondé sur, disons, un rapport de type biologisant, c'est-à-dire raciste, l'esprit de brutalité, l'idée selon laquelle le plus fort a raison, tout ce que décrit Freud et quelques autres, Gustave Le Bon, au sujet des foules, c'est ce que l'on voit. Et c'est d'autant plus décuplé que c'est porté en profondeur par les nouvelles technologies. Et donc ce mélange de, disons, d'une pulsion nihiliste portée par une révolution technologique jamais vue dans l'histoire de l'humanité, ce mélange est explosif.
Et à contrario, le symbole de la différence, de l'altérité, c'est Barack Obama. Quel souvenir va-t-il laisser dans l'histoire ?
Ça aura été un homme décent. Ça aura été un homme qui aura porté, disons, une certaine idée de ce que c'est qu'être un être humain, une certaine idée d'une humanité où il y a place pour tous. Mais il aura été, on le sait également, fortement bloqué dans ce qu'il aurait pu faire par des forces autrement puissantes qui, maintenant, sont au pouvoir. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais Obama aura été un grand moment d'optimisme et d'espérance dans la lignée de beaucoup d'autres qui sont venus avant lui, et on l'espère de beaucoup d'autres qui surgiront après lui.
Monsieur Mbembe, merci beaucoup.
Merci beaucoup.